Aujourd'hui, c'est le quart d'heure de la lecture en France. Mais comme tout le monde n'a pas un livre sous la main, Approfond Lire a le plaisir de vous lire un passage du dernier livre de Neige Souno, La Realidad. Neige Souno s'est fait connaître il y a 2 ans. Elle a publié le livre Triste Tigre, un texte hybride d'une force rare dans lequel elle racontait l'inceste dont elle avait été victime enfant. Dans La Realidad, qui vient de sortir, c'est le nom d'un village situé dans les montagnes du Chiapas au Mexique, où vivent les peuples autochtones à l'origine du soulèvement zapatiste. Et Neige Souno a justement vécu là-bas plusieurs années. Le jour suivant, nous partons dans les villages où des familles se sont préparées à nous recevoir. Au début, on nous a dit qu'on allait nous séparer, Max et moi. Nous insistons pour rester ensemble. Nous comprenons que la logistique pour organiser tout ça est très complexe et que les désirs particuliers de chacun ne peuvent pas être pris en compte. Mais nous essayons quand même. À la fin, ils trouvent une famille qui veut bien nous accueillir tous les 6. Ce sont les familles qui prennent en charge les personnes accueillies et fournissent la nourriture de ces journées. Leur générosité est immense. À elle seule, elle est déjà une leçon de vie pour des gens comme nous qui n'avons pas une telle aptitude à l'hospitalité. Elles nous reçoivent dans leur maison, nous font à manger, prennent le temps de nous montrer leur vie quotidienne, comme si nous faisions partie de la famille, comme si nous étions des invités importants. Nous nous déplaçons en minibus collectif jusqu'à un village à 1 heure du Caracol, dans une zone qui est à moitié zapatiste, à moitié PRI, le parti institutionnel qui a gouverné le pays pendant 70 ans. Le village lui-même est divisé en 2, ce qui complique fortement l'organisation des habitants. Il s'appelle 20 de novembre, ou 5 de mayo, ou 15 de septembre, ou Lucio Cabanas. Les hommes accompagnent les hommes dans leurs travaux au champ et dans la forêt. Nous, les gardiennes, la petite et moi, restons avec les femmes. Ce sont des expériences très différentes et pas seulement en ce qui concerne l'assignation des tâches. Les hommes sont volubiles, ils sont fiers de montrer leur terre, leur culture, leurs ateliers. Ils jouent à mettre les nouveaux arrivants à l'épreuve. Ils veulent montrer leur force, leur connaissance du terrain. Le grand-père de la famille raconte comment le mouvement a commencé longtemps avant le soulèvement. Il parle de débuts balbutiants de révolte dans les années 50 ou 60, quand ils étaient très jeunes et que les hommes se réunissaient en secret, dans des clairières au cœur des bois, pour organiser la résistance contre les patrons, les propriétaires, terriens, qui exploitaient la force de travail de tous les Indiens qui n'avaient pas de terrain à eux. Ils étaient sans terre, sans droit, sans dignité. Tout ça, tout ce qu'ils ont aujourd'hui, ils l'ont conquis. Les hommes jeunes parlent de politique avec Max. Ils posent des questions sur le Pays basque dont il est originaire. Ils comparent les luttes, les contextes historiques, les questions de langue native et de langue imposée. Tous les hommes, même le grand-père, ont été à l'école. Aucune des femmes de la famille ne sait lire ni écrire. Seules les gardiennes ont été scolarisées. Les femmes de la famille parlent peu espagnol et sont très réservées. Elles ne veulent pas que nous les aidions à la cuisine, mais Daisy et Leslie insistent. On leur a dit que cela devait être ainsi. L'idée est que nous participions aux tâches quotidiennes et que nous puissions poser des questions que nous, votanas, traduisent aux femmes de la famille. Nous essayons. Je cherche des questions qui ne seraient pas trop incommodes, mais je me rends compte que toutes mes questions sont incommodes. Je demande aux femmes combien elles ont d'enfants et elles me mentent. L'une dit qu'elle en a 2 et que sa sœur en a 2 aussi. Mais ensuite, la sœur vient nous rejoindre dans la grande pièce enfumée où on fait la cuisine et dit qu'elle en a 4. Et une autre femme me dira plus tard, au détour d'une conversation, qu'elles en ont 4 chacune. La famille a 2 maisons, 2 lieux de vie, de chaque côté de la route. Un groupe d'enfants court librement de l'une à l'autre, joue dans les cours des maisons, nous regarde de loin et finit par s'approcher. Il veut toucher les cheveux de la petite blonde qui leur rend visite. Il lui donne une mangue à sucer, des petites voitures, un bonhomme en plastique. Il lui donne une machette pour qu'elle essaie de couper un bout de bois. Les femmes regardent en souriant. Aucune d'entre elles ne leur enlève la machette. Je tiens 1 minute, 2 minutes. Après ça, je trouve une excuse pour éloigner ma fille de cette lame de métal aiguisée et rouillée. Il faudrait que je les éloigne tous de cette machette, mais je ne veux pas être importune. Je demande si de temps en temps, les hommes aident à la cuisine, s'ils savent faire des tortillas. Elles me disent que oui, que non. Elles rient. J'essaie de poser quelques questions à Daisy et Lady. Si elles utilisent un moyen de contraception, si les femmes peuvent faire des études supérieures, qu'est-ce qui se passe quand il y a de la violence dans une famille ? Elles me disent qu'elles boivent des tisanes de plantes pour ne pas tomber enceinte, que les femmes aujourd'hui n'ont qu'un enfant ou deux, qu'elles ne tombent pas enceintes avant d'avoir 20 ans, qu'elles font des études tout autant que les hommes. Elles ont les mêmes droits, il n'y a pas de violence intrafamiliale, car l'alcool est banni. Elle résiste le manuel. J'arrête de poser des questions. Je vais plutôt à la cuisine et j'apprends à faire des tortillas. Il m'est arrivé quelquefois d'aider à aplatir les petites boules de pâte entre les paumes de mes mains pour faire les galettes qui accompagnent chaque repas. Je me dis que ça devrait aller. Mais bien sûr, quelques jours de pratique ne suffisent pas pour maîtriser un art comme celui-ci, qui se peaufine chaque jour depuis l'adolescence. Un art qui vous oblige à vous brûler le bout des doigts pour retourner la galette quand elle est chaude, qui vous fait respirer la fumée de l'âtre pendant des années, qui vous attache au pied du foyer, mais plus sûrement qu'une chaîne. Mes grosses crêpes aux formes biscornues font rire tout le monde. Il est clair que pour ces femmes, que je suis une nantie, que j'achète les tortillas au magasin tous les matins. Je ne peux pas me démentir. Je participe aux tâches. Les femmes m'amènent à leur potager, qui est un peu en dehors du village. Nous travaillons la terre et plantons quelques graines de salade, épinards et carottes. Le travail est dur, mais je suis originaire de la campagne. Je sais bêcher un champ et ça les tranquillise. Elles ont l'air de m'oublier un peu. Elles conversent joyeusement dans leur langue en travaillant. Une des femmes m'est sympathique. Elle me regarde sans rien dire de ses yeux mystérieux et sombres. Reste souvent près de moi, me parle un peu plus que les autres. Elle s'appelle Maria. Elle a mon âge à peu près, dans les 35 ans. Je ne demande pas combien elle a d'enfants, mais son corps me dit qu'elle en a plusieurs. Elle est belle. Elles le sont toutes, peau cuivrée, paupières aux longs cils, petites, menues, avec des mouvements doux et graciles. Les joues de Maria sont rosies par le soleil et rossissent encore plus de timidité quand elle parle. Même s'il lui manque une dent, son sourire est celui d'une déesse. C'était l'extrait de « La Realidad » par Neige Chino, paru chez POL.